matter.
Bonjour à tous, ici Lisa pour la Radio Girafe et aujourd'hui, nous allons découvrir notre microbiote intestinal, éveiller notre curiosité et explorer de nouvelles dimensions. Et ça, c'est dans votre chronique Être bien. Si je vous dis Bifidobacterium, ou alors Ruminococcus, ou encore Faecalibacterium, vous pensez évidemment à votre ballonnement de la semaine dernière, n'est-ce pas? Eh bien moi, oui. Car depuis quelques semaines maintenant, je prends soin de mes 5-6 mètres d'intestin et de ce qui se passe à l'intérieur. Avez-vous déjà entendu parler du microbiote intestinal ?
Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble de tous les micro-organismes qui se trouvent dans notre tube digestif. Alors, on dit intestinal parce que c'est le plus connu, mais il faut savoir qu'il y a déjà du microbiote dans la bouche, un petit peu dans l'estomac, le duodénum, et puis ça augmente beaucoup quand on arrive à la fin de l'intestin grêle, et la partie la plus importante du microbiote digestif, donc c'est effectivement le microbiote qui est dans le gros intestin. Et donc, quand on parle de microbiote intestinal, le plus souvent, on assimile ça au microbiote du gros intestin. Et la façon qu'on a de l'étudier chez l'homme, il n'y en a pas 36 pour l'instant, la plus simple, c'est de recueillir les selles et d'analyser le microbiote dans les selles, qui est en fait un reflet imparfait de l'ensemble du microbiote digestif. Et donc, dans ces micro-organismes, il y a surtout des bactéries, il y a aussi quelques virus, il y a quelques parasites, il y a quelques autres micro-organismes un peu compliqués en termes de nomenclature. Mais voilà, donc l'essentiel des connaissances jusqu'à présent a été quand même surtout consacré aux bactéries du microbiote intestinal.
La personne que vous venez d'entendre, c'est le professeur Pierre Deschlottes. Et nous avons l'opportunité, durant cet épisode, de l'interviewer sur cette thématique assez complexe qu'est le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal humain vient du grec mikros, qui signifie petit, et biotos, qui est un adjectif verbal de bio, qui signifie vivre. Ça, c'était vraiment pour le côté littéraire du microbiote. Mais étant donné que nous avons la chance d'avoir Pierre Deschlottes avec nous, je le laisse se présenter.
Alors moi, je suis professeur de nutrition ici au CHU de Rouen. J'ai une formation initiale de gastro-entérologue, donc je me suis toujours intéressé au tube digestif et au fil des années, je me suis concentré sur le rôle du tube digestif dans les fonctions nutritives, dans l'alimentation, dans la digestion, puis dans la régulation du comportement alimentaire, puisqu'on sait maintenant que l'intestin joue un rôle très important pour dire à notre cerveau comment il mange, comment il doit manger, est-ce qu'il, quand il doit s'arrêter, quand il a faim, etc. Et donc, j'ai, dans ce contexte-là, été amené à créer le service de nutrition au CHU de Rouen au début des années 2000 et à le développer, également à développer une grosse unité de recherche sur la faculté de santé, qui est unie maintenant depuis 15 ans, une unité INSERM. Et donc, voilà, l'aventure continue avec une équipe médicale et de recherche de plus en plus importante et des collègues qui poursuivent dans ce domaine. Et donc, quand on s'intéresse à la nutrition, à l'appareil digestif, à un moment ou à un autre, on est obligé de s'intéresser au microbiote parce que ça a été des grandes découvertes du début des années 2000 de s'apercevoir que le microbiote pouvait jouer un rôle dans la régulation du poids de l'organisme. Au début, on a constaté que les personnes souffrant d'obésité n'avaient pas le même microbiote que les personnes maigres. Et puis, de fil en aiguille, à force des recherches, on a mieux compris quels étaient les mécanismes par lesquels le microbiote pouvait réguler notre métabolisme, la façon dont nous stockons les graisses, par exemple, et également la façon dont notre cerveau va commander la prise alimentaire. Nous avons des hormones dans le tube digestif qui jouent un rôle pour dire « j'ai faim » ou pour dire « je n'ai plus faim ». Mais nous avons aussi un rôle très important du microbiote et des signaux, des molécules produites par le microbiote qui interagissent avec nos propres neurones et nos propres hormones pour participer à cette régulation de la prise alimentaire. Là, c'est juste un exemple sur le domaine qui est plus particulièrement le mien, sur le comportement alimentaire. Mais on peut maintenant, il y a des dizaines et des dizaines de maladies, de fonctions pour lesquelles on pense que le microbiote joue un rôle.
À ce titre, il influe donc sur la santé. Mais pourquoi ce microbiote a-t-il autant de pouvoir sur notre corps et notre esprit ? Eh bien déjà, parce que ces petites bactéries dans notre corps, elles sont environ 30 milliards à cohabiter. Et elles évoluent en permanence en fonction de notre environnement, de ce que l'on mange, de ce que l'on ingère et digère. Notre milieu de vie, il est déterminant pour notre microbiote. Il semblerait que le microbiote d'un citadin ne soit pas le même que celui de quelqu'un qui vit à la campagne. Alors imaginez la différence de microbiote qu'ont les Américains des Italiens ou encore les Mexicains des Russes. L'aseptisation des villes et l'éloignement des êtres humains de la nature auraient tendance à appauvrir nos microbiotes. Moins d'arbres et plus de béton, moins de balades et plus de voitures, ce sont de nombreux changements d'habitude qui impactent profondément la qualité de notre flore intestinale. L'importance capitale pour nos amis les microbes, c'est la diversité. Un peu comme dans la vie au final. Et il semblerait que cet appauvrissement et le manque de diversité du microbiote intestinal aient des conséquences impossibles à ignorer sur notre santé. Selon le spécialiste en immunopathologie Harald Rens, la diversité est bénéfique à notre organisme et à notre système immunitaire. Chez les malades chroniques, comme les asthmatiques, les allergiques, les personnes souffrant de problèmes de peau atopiques, on observe un véritable manque de biodiversité microbiotique dans les intestins, les poumons ou encore sur la peau. Mais alors, comment on en est arrivé là ? Pourquoi nos microbes, jadis si nombreux et diversifiés, semblent aujourd'hui faire grise mine ? Eh bien, la réponse se trouve en grande partie dans notre mode de vie moderne. Nos microbes ne sont pas faits pour vivre dans un monde stérile, aseptisé et surtout ultra transformé. Ils ont besoin de contacts, de nature, de bactéries variées, de fibres, de vie quoi. Donc dans un premier temps, on va parler de l'ère de l'hygiène extrême. Depuis la révolution industrielle, puis surtout avec les progrès de la médecine, nous avons déclaré la guerre aux microbes. Et heureusement, les vaccins, les antibiotiques, le lavage des mains, tout ça, ça a sauvé des millions de vies. Mais à force de tout désinfecter, de tout nettoyer, de tout pasteuriser, nous avons aussi éliminé les bons microbes. Les enfants jouent moins dehors, touchent moins la terre, les animaux et les plantes, nos organismes sont moins exposés à la diversité microbienne, et donc moins entraînés à se défendre. Et c'est ce que les scientifiques appellent parfois l'hypothèse hygiéniste. Dans un second temps, on pense à l'alimentation ultra transformée. C'est un autre facteur majeur. Nos ancêtres mangeaient des fibres, des légumes fermentés, des produits frais et locaux. Aujourd'hui, trop de sucre raffiné, trop de graisses saturées, trop d'aliments stériles sortis tout droit de l'usine. Résultat, nos microbes crèvent la dalle.
Alors bien sûr, vous avez raison de le dire, c'est multifactoriel. Il y a 36 façons de modifier le microbiote. La plus naturelle, c'est l'alimentation. Il ne faut pas oublier que notre microbiote se nourrit, à nos frais. Hein. Il se sert un petit peu sur ce que nous mangeons. Et pas mal d'études ont montré que l'alimentation trop de type Western diet, à l'américaine, hein, avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments ultra transformés, pas assez de fibres, etc. Tout cette alimentation déséquilibrée, malheureusement, fait du mal à notre microbiote. Et le déséquilibre, l'appauvrit, lui fait perdre sa diversité. Et on pense que c'est un des facteurs qui contribue à augmenter le risque d'un certain nombre de maladies chroniques actuellement, dans les années modernes, les années 2020, là, hein. L'obésité, mais beaucoup d'autres aussi. Hein. Il y a de nombreuses maladies pour lesquelles on pense que le déséquilibre du microbiote, favorisé en partie par ce type d'alimentation, joue un rôle dans la maladie.
Les bonnes bactéries adorent les fibres. Celles des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes. Mais aujourd'hui, les produits ultra transformés, eux, les privent de nutriments. Et quand nos bonnes bactéries s'affaiblissent, eh bien ce sont les mauvaises qui prennent la place. Troisième raison, les antibiotiques et certains médicaments. Les antibiotiques ont révolutionné la médecine. Mais ils ne l'ont pas fait dans le détail. Ils détruisent les mauvaises bactéries, mais aussi parfois les bonnes. C'est pour ça qu'une cure d'antibiotiques peut parfois mettre plusieurs mois à être compensée par le microbiote. Et ce n'est pas tout. Certains antiacides, anxiolytiques ou anti-inflammatoires altèrent aussi la flore intestinale. C'est d'ailleurs pour ça qu'après un traitement antibiotique, il est conseillé de faire une cure de probiotiques.
Les facteurs d'environnement, vous avez raison de les mentionner, puisqu'on sait maintenant qu'un certain nombre de polluants, un certain nombre de résidus, de nanoparticules, de plastique, donc tout ce qu'on va retrouver dans l'alimentation ultra transformée, parfois, ou même dans l'eau de boisson, dans l'environnement, peut jouer un rôle aussi néfaste sur le microbiote et impacter la santé. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres façons d'agir, parce que la régulation par l'alimentation, c'est un phénomène lent qui prend des semaines, des mois pour réorganiser notre microbiote. Donc, si on veut quelque chose d'un peu plus rapide, on peut agir en ajoutant certaines souches bactériennes, ce qu'on appelle des probiotiques. Mais il y en a peu pour l'instant qui ont fait l'objet d'études cliniques vraiment convaincantes. C'est en train de se développer. Et puis alors, la façon la plus radicale de changer le microbiote, bien sûr, c'est de faire un transfert de microbiote. Mais pour l'instant, c'est réservé à des situations un petit peu extrêmes, comme certaines colites graves, colites infectieuses, à Clostridium difficile. On n'a pas pour l'instant de technique de transplantation de microbiote pour traiter l'obésité, le diabète ou la schizophrénie. Mais il y a des études dans ce domaine-là qui avancent pas à pas. Il y a eu quelques études qui ont été très remarquées dans le domaine de l'autisme, par exemple. On fait maintenant du transfert de microbiote après des greffes de moelle osseuse chez les patients qui ont une leucémie pour améliorer la récupération après la greffe de moelle osseuse. Enfin, les applications d'intervention sur le microbiote sont absolument incroyables et variées. Toutes ne sont pas encore, bien sûr, validées. Mmh. On est dans un champ extrêmement actif de recherche où les choses avancent très, très vite.
C'est quand même hyper rassurant de voir qu'on peut améliorer la santé de notre microbiote. Mais pour l'instant, continuons d'explorer les autres raisons qui l'abîment. Quatrième raison, le mode de vie urbain. Enfin, notre mode de vie sédentaire et urbain joue un rôle clé. Nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos, bureaux, voitures ou encore appartements. On a assez peu de contact avec la nature, peu de diversité microbienne dans l'air, dans la terre et sur la peau. Nos ancêtres, eux, ils vivaient dehors, ils respiraient la poussière, ils marchaient pieds nus, cultivaient, touchaient la vie. Eh bien cette vie, elle nourrissait leur microbiote. Au-delà des maladies chroniques, il est important de souligner que grâce à son microbiote, l'intestin est le principal producteur de sérotonine. Ce qui a des conséquences sur notre humeur. Et oui, notre humeur, vous vous rendez compte? Même notre cerveau est impacté. L'intestin aurait-il donc un rôle à jouer dans notre santé psychique? Serions-nous en train de valider le fait que notre intestin est notre deuxième cerveau?
L'expression de deuxième cerveau, en fait, est déjà un peu plus ancienne. Elle correspond au milieu des années 80-90, au moment où on s'est aperçu que l'intestin, le tube digestif, produisait un certain nombre de neurotransmetteurs, de molécules signales, d'hormones, qui vont agir parfois sur le cerveau. Et dans les mêmes périodes, on a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de neurones à l'intérieur de l'intestin. Et donc, quand on disait deuxième cerveau dans cette période-là, c'était plutôt pour désigner le tube digestif lui-même, la paroi intestinale, avec les neurones et les cellules nerveuses hormonales qui sont dans l'intestin. Et donc, finalement, actuellement, on tend à prendre ce qualificatif de deuxième cerveau pour désigner le microbiote. Mais en toute logique, il faudrait presque dire que le microbiote, c'est le troisième cerveau. Alors, c'est un petit peu à jouer sur les mots, mais c'est important parce que le microbiote qui est dans l'intestin, dans le tube digestif, interagit aussi avec l'intestin lui-même. Il y a un dialogue entre le contenu intestinal, qui est surtout fait donc de bactéries, et l'intestin lui-même. Il y a des échanges de métabolisme, il y a des signaux entre certaines bactéries et certaines cellules intestinales. Et c'est le produit de tout ça, de cette interaction entre les deux, qui va ensuite agir sur le cerveau. Vous voyez ? Okay. Donc il y a une coopération un peu à trois étages, si on peut dire, entre le cerveau du haut, l'intestin et le microbiote.
En 2017, un grand projet d'étude a été lancé, le projet Microbiote humain. Il a été lancé pour comprendre, étudier et référencer le microbiote humain. Comment maintenir leur équilibre? Que se passe-t-il quand l'équilibre est rompu? Notre microbiote, selon Harald Renz, joue un rôle fonctionnel et causal dans la régulation des maladies. De plus en plus d'études sont réalisées sur le lien entre intestin et cerveau. Il semblerait même que la dépression et le cancer aient un lien avec notre microbiote.
Pour l'instant, c'est au stade des études pilotes. Hein. Oui. On est vraiment au tout début des applications. Mais par exemple, il y a eu plusieurs articles dans le domaine de l'immunothérapie des cancers.
D'accord.
Par exemple, sur des mélanomes métastatiques, des tumeurs cutanées graves qui répondent plus ou moins bien aux immunothérapies ou des cancers bronchiques. Et bien, plusieurs études ont montré que le fait de transférer du microbiote, donc de restaurer en quelque sorte un microbiote en pleine forme, améliorait la réponse au traitement du cancer. Ce transfert de microbiote vient redonner un coup de pouce à nos défenses immunitaires à nous. Les remet en route en quelque sorte et donc va permettre l'action des médicaments qui viennent s'en servir.
Le cancer, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Mais concernant la dépression, c'est de plus en plus clair. En avril dernier, une femme nommée Annick témoigne sur France 2 concernant sa dépression. Elle voit tout un tas de médecins, teste de nombreux médicaments et rien ne fonctionne. Elle a la sensation que c'est chimique, que son mal-être vient de l'intérieur de son corps.
Je suis dépressive ou maniaco-dépressive ou en même temps qu'une énergie énorme depuis plus de 30 ans. Ensuite, j'ai été plus ou moins mal suivi avec des psychothérapies dites comportementales, dites bref. Néanmoins, je suis depuis 30 ans passé, malgré mes grandes activités, par des phases de découragement, de tristesse, d'angoisse profonde qui m'ont amené à être réhospitalisée.
C'est ainsi qu'elle découvre le docteur Guillaume Font, qui est docteur en biologie cellulaire et moléculaire, chercheur en psychonutrition et auteur du livre « Bien nourrir son cerveau ». Ainsi, elle comprend le rôle de l'entretien de son microbiote dans sa santé mentale et psychique.
Docteur, j'ai résolu beaucoup de mes problèmes de jeunesse, d'enfance, de rupture, etc. Je sens que chez moi, c'est chimique. Et la réponse est toujours « Ah bon ?» Jusqu'au moment où, il y a 5-6 ans, je ne sais pas exactement, j'ai trouvé les sites YouTube de Guillaume Font qui parlaient du microbiote.
Mais pourquoi? Parce que vous aviez des problèmes digestifs ou...
Elle comprend qu'en changeant son alimentation, peut-être qu'elle ira mieux. Et ça n'a pas manqué. Elle a commencé un régime méditerranéen et aujourd'hui, le bonheur est revenu.
Donc vous avez une dépression.
Voilà.
Mais aussi le problème digestif. Voilà. Dans des périodes où j'étais plutôt en phase soit d'angoisse, soit de dépression, j'étais sujette à des diarrhées motrices. C'est pas très élégant d'en parler comme ça, mais c'est irrépressible et ça fait maintenant 5 ans que je prends des oméga 3, du zinc, de la vitamine D et que j'ai adapté mon régime habituel de nourriture. Donc je me porte très bien. Ce cerveau dont on dit que c'est le deuxième, je pense que c'est le premier, en fait.
Il paraît que quand ton corps est en inflammation chronique, il libère des molécules appelées les cytokines, qui vont directement influencer le cerveau. Ces cytokines, elles peuvent réduire la disponibilité de la sérotonine, empêcher la dopamine d'être bien utilisée, déréguler le système du stress, perturber le sommeil et augmenter la sensation de fatigue et de brouillard mental. Résultat, fatigue profonde, baisse de morale, perte d'envie, anxiété, rumination, ce sont littéralement des effets biologiques. Et c'est dans les deux sens. Le stress chronique, la rumination et la fatigue émotionnelle, elles augmentent le cortisol, dérèglent l'immunité et favorisent l'inflammation silencieuse. Donc c'est un vrai ping-pong. Inflammation égale dépression, inflammation égale dépression, etc., etc. Un microbiote équilibré produit des substances qui renforcent la barrière intestinale et calment l'inflammation. Quand il se dérègle, ce qu'on appelle la dysbiose, la paroi devient plus perméable et des fragments bactériens passent dans le sang et déclenchent une réponse immunitaire inflammatoire. Et cette inflammation, en retour, elle abîme encore plus le microbiote. En fait, ça crée un véritable cercle vicieux. C'est peut-être ça qui est arrivé à notre chère Annick de France 2.
Dans un contexte de, par exemple, souvent on dit que après un traitement antibiotique, il faut redonner des bactéries parce qu'on, ça a été agressif. Est-ce que prendre des probiotiques qu'on trouve en pharmacie, qui sont les probiotiques pour monsieur et madame tout le monde, Est-ce que ça sert vraiment? Étant donné que ça n'a pas de lien avec notre microbiote qui est très individuel au final.
Alors, je dirais qu'il faut faire le tri, parce que comme dans tous les domaines de la santé, il y a parfois des à boire et à manger, hein. Et donc, il y a un certain nombre de probiotiques qu'on peut qualifier de génériques, qui sont, je dirais, globalement bons pour la santé. Par exemple, c'est un peu ce qu'on trouve dans le yaourt, dans les produits fermentés, qui apportent des bifidobactéries, des lactobacilles, voilà, un certain nombre d'espèces qui sont réputées bénéfiques pour la santé. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est le probiotique un peu généraliste, quelque sorte. Après, si on veut une action spécifique dans une situation spécifique, bah, il faut prendre un probiotique spécifique qui a fait l'objet d'études cliniques et dont on est sûr qu'il apporte réellement un bénéfice. Sinon, on risque sans doute pas grand-chose, mais on risque d'être déçu. Hein.
Oui.
Voilà. Et donc, par exemple, vous citez l'exemple de la diarrhée après antibiotiques. Eh bien, il y a effectivement un ou deux probiotiques seulement qui ont fait l'objet d'études bien, bien sérieuses, bien faites, qui démontrent qu'effectivement, ils raccourcissent la diarrhée post-antibiotique, qu'ils améliorent la récupération. Et c'est cela qu'il faut utiliser. Les
D'accord.
médecins les connaissent, les pharmaciens. Le reste, bah, ma foi, c'est de l'accompagnement, on va dire.
J'ai trouvé pertinent d'utiliser l'exemple des traitements antibiotiques et des cures de probiotiques, car c'est une chose par laquelle on est tous concernés un jour ou l'autre dans notre vie. On a tous un jour pris des antibiotiques et eu, après, un peu mal au ventre ou eu des sensations d'agression. Eh bien, en quelque sorte, c'était une forme d'inflammation de notre microbiote. Bon, vous l'avez entendu, le microbiote et l'inflammation, eh bien, ils sont intimement liés. Quand le microbiote est déséquilibré, il déclenche l'inflammation. C'est ce qu'on appelle donc la dysbiose. Ainsi, la barrière intestinale s'abîme, les bactéries pro-inflammatoires prennent le dessus, les ba bonnes bactéries diminuent. En gros, c'est une véritable réaction en cascade. Parmi les maladies inflammatoires chroniques, j'ai décidé de me pencher sur la maladie de Crohn. C'est une maladie qui touche environ 180 000 personnes en France et qui est très handicapante et aujourd'hui considérée comme incurable. J'ai eu l'honneur que Mélinda nous partage son vécu de battante vis-à-vis de la maladie de Crohn. Un partage à la fois intime et révélateur du travail qu'il reste à mener sur l'étude des maladies du système digestif.
Alors, comment j'ai découvert ma maladie? C'est une vaste question, puisque j'ai commencé à avoir les symptômes quand j'avais 9 ans et j'ai été diagnostiquée à mes 17 ans. Donc, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est long, c'est long à expliquer, puis je m'égare. Mais en fait, j'ai eu des premiers symptômes quand j'avais 9 ans, j'avais régulièrement des diarrhées, je me comparais avec mes copains, je me disais, c'est pas normal, j'ai des diarrhées alors que j'ai pas forcément mal mangé. Bon, je me disais ça, mais j'avais 9 ans, c'est surtout mes parents qui se disaient ça, à vrai dire. Et puis, bon, le médecin disait que tout était normal, tout allait bien. Donc, bon, voilà, j'ai continué ma petite vie d'enfant comme ça. L'adolescence est passée par là, le collège. Et donc là, c'était des diarrhées, des semaines complètes, au moins une fois par mois, une semaine par mois, des diarrhées comme si j'avais la gastro, sauf que j'avais pas de gastro. Et donc, des diarrhées 3, 4, 5 fois par jour, y compris la nuit, des douleurs. Voilà, bah, sans réveiller, hein, pour aller aux toilettes, et puis pendant les cours, devoir partir pour aller voir l'infirmière. Enfin, c'était assez compliqué. Et donc, à mes 14 ans, j'ai consulté pour la première fois une gastro-entérologue, qui aussitôt est allée sur la piste psychologique, somatique. Elle pensait que voilà, j'allais pas très bien, et qu'en fait, je somatisais. Bon, du coup, c'est un peu embêtant puisque bah, avant d'aller voir la piste psychologique, qui peut exister, hein, clairement, ça arrive de somatiser, bah, pour le coup, il faut quand même vérifier avant le médical, quoi, le physiologique. Et en l'occurrence, c'est pas ce qui a été fait. Donc moi, je suis repartie de ce rendez-vous en me disant, ah, bah, en fait, je suis folle, c'est de ma faute si j'ai ces problèmes de ventre, parce que je suis trop stressée, c'est parce que... Sauf qu'en réalité, c'était pas le cas. Puis j'ai compris plus tard que de toute façon, le diagnostic de la maladie de Crohn, il est complexe parce qu'en fait, les symptômes de cette maladie, ils peuvent être en lien avec plein d'autres pathologies. Et en fait, il n'y a que dans le cas de très grosses crises que le diagnostic peut être facilement posé. Et en fait, le fait que j'ai des diarrhées, voilà, une fois, une semaine par mois, bah, c'était rapidement mis en lien avec les menstruations, tout ça, ce qui pour le coup n'était pas le cas. Donc c'était voilà, compliqué de poser ce diagnostic, pardon. Et donc, à mes 14 ans, voilà, je suis partie de ce petit rendez-vous en me disant, bon, bah, c'est dans ma tête, je mets ça de côté, tant pis, je subis, mais j'en parle pas parce que Parce que c'est dans ma tête, quoi. Donc pendant 2 ans, 2 ans, j'ai subi ça, ça s'empirait, hein, ça s'empirait. Jusqu'au jour où, voilà, le corps a parlé, j'ai vécu une rupture amoureuse, comme tout le monde, comme ça arrive à tout le monde, mais en l'occurrence, voilà, j'étais vraiment dans une démarche de « je veux pas pleurer, je veux pas être triste ». Et en fait, je pense que mon corps a vraiment parlé à ma place. Et j'ai commencé à avoir comme des sensations de coups de couteau dans l'estomac, dans l'œsophage et dans le duodénum. Bon, j'ai compris plus tard que c'était le duodénum, mais en tout cas dans le secteur, on va dire, œsophage. Et c'était des douleurs à vraiment à ne pas dormir, à ne pas pouvoir manger. Rien qu'avaler ma salive, c'était douloureux. Enfin, c'était très compliqué, très douloureux. Donc là, tout ça, alors les débuts des symptômes, c'était début juin 2020, donc mi-août, parce que je suis née le 7 août, donc je me rappelle que c'était la période de mon anniversaire. Ma mère a pris rendez-vous chez une gastro-entérologue, parce que là, j'ai dit, voilà, j'en peux plus, j'arrive plus à manger correctement, ça va pas du tout. Et en plus de ça, je commençais à retrouver du sang dans mes selles. Donc, bon, on a pris rendez-vous, mais forcément, les rendez-vous chez les spécialistes, c'est toujours long, ça se fait toujours attendre. On en manque toujours. Et donc, j'avais rendez-vous qu'en novembre. Donc, c'est compliqué de rester 3 mois comme ça. Et en fait, je pouvais pas tenir, donc je suis allée aux urgences en octobre. Et on s'est rendu compte que j'avais perdu déjà plus de 10 kilos en 2 mois. Je faisais 85 kilos et j'étais déjà descendue à 75. Et puis j'avais un taux inflammatoire, je crois que ça s'appelle la CRP, qui était très très haute. Je crois que j'étais à 180, un truc énorme, 140, enfin un truc énorme. Donc ça prouvait bien que voilà, le taux d'inflammation était quand même témoigné de la souffrance de mon corps. Et donc là, ils m'ont prescrit en urgence une gastroscopie. Alors, je comprends jamais trop les termes coloscopie. En tout cas, l'idée, c'était d'aller voir du côté donc anal avec une caméra, mais aussi de par l'œsophage et la bouche. Et donc, à mon réveil, donc là, on est toujours en octobre, on est peut-être mi-octobre, et je me réveille de cet examen et on m'annonce que j'ai quand même 6 ulcères. 6 ulcères et que c'est sûrement la maladie de Crohn. Voilà comment j'ai appris que j'avais cette pathologie. En sachant évidemment, ça j'ai oublié de le préciser, que quand j'avais 14 ans et que j'ai consulté pour la première fois une gastro-entérologue, je suis arrivée tout de même en disant « Je pense avoir un facteur génétique, je pense avoir cette maladie, car dans ma famille, 2 personnes ont la rectocolite hémorragique et mon cousin a la maladie de Crohn. » Mais bon, on ne m'a pas écoutée, tant pis. Je suis un peu en colère par rapport à ça quand même, hein.
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin dans laquelle le système immunitaire est activé de façon inadaptée par des bactéries intestinales. Cette pathologie, elle se manifeste par des poussées suivies de phases de rémission et se caractérise par des douleurs abdominales, un amaigrissement, une diarrhée et de la fièvre. Son impact sur la qualité de vie des patients est non négligeable et son caractère chronique la rend très invalidante, voire parfois invivable. Dans certains nombres de cas, les complications liées à la maladie de Crohn nécessitent une intervention chirurgicale au niveau de l'intestin.
Comment j'ai adapté mon quotidien ? Je cherche toujours à l'adapter. Je compose au jour le jour. J'ai pas trop le choix. Au niveau du travail, c'est extrêmement handicapant parce qu'en plus, je fais un travail qui me demande de beaucoup bouger en fait en voiture dans la journée. Et qui demande beaucoup de concentration et de disponibilité. Sauf que la maladie fait que je ne le suis pas toujours. Et donc, voilà, tout est calculé, tout est absolument calculé. Si par exemple je dois me déplacer d'un point A à un point B, je vais vraiment regarder où est-ce qu'il y a des toilettes publiques sur la route. Est-ce que c'est à proximité de chez moi ? Est-ce que c'est à proximité d'un centre commercial ? Est-ce que c'est à proximité de chez des amis pour me dire, voilà, si jamais j'ai un problème, je vais aux toilettes là. J'ai toujours un rouleau de papier toilette sur moi. J'ai toujours un désinfectant pour nettoyer les cuvettes, tout ça. Donc, c'est hyper... c'est une charge mentale, quoi. C'est une charge mentale au niveau des traitements. Aussi, il faut toujours penser tous les mois à aller renouveler son traitement, chercher les injections, se faire les injections, c'est un planning. L'Imodium, je ne peux pas sortir sans, hein, parce que je ne peux pas manger sans, donc voilà. le quotidien, il est hyper compliqué. Et puis, c'est surtout que psychologiquement, bon, déjà, les douleurs sont insupportables. Hein, donc, psychologiquement, c'est compliqué. Mais ça, à la limite, je m'y fais. Je suis habituée. Donc, ça va. Le gros problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, si demain, je vais, au restaurant, et qu'admettons dans ce restaurant il n'y a pas de toilette, alors ça peut paraître bête, mais ça arrive souvent. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et puis je m'en rends bien compte puisque je fais hyper attention à ça. Imaginons il n'y a pas de toilette, bah, ça me fait comme une sorte de claustrophobie. C'est un peu particulier à expliquer, en fait. Je ne peux pas rester dans une pièce si je sais qu'il n'y a pas de toilette à disposition. Voilà. Les trajets en voiture, c'est extrêmement compliqué parce que je peux pas, si je suis sur l'autoroute, bah, je peux pas m'arrêter pour aller aux toilettes. Si je vais chez des amis, c'est extrêmement compliqué. Puis en dehors de ça, il y a aussi le tabou autour du fait d'aller aux toilettes pour faire la grosse commission. C'est toujours un peu gênant de dire « Ah, bah, en fait, j'ai une pathologie, il faut absolument que j'aille aux toilettes, même si c'est des proches, tout ça. » Enfin, ça touche quand même à l'intime et voilà, même si aujourd'hui, moi, j'ai plus de tabou autour de ça, que j'en parle hyper ouvertement, bah, ça fait chier, quoi. C'est embêtant d'aller dire « Ah, il faut absolument que j'aille aux toilettes, de donner... » Enfin, bref, c'est une charge mentale de dingue. Au niveau des voyages, n'en parlons pas, c'est la même galère. En sachant qu'en plus, il faut que je prenne les traitements avec moi, donc il faut que je prenne une glacière à l'aéroport, c'est compliqué, parce que du coup, j'ai des ordonnances qui s'appellent ordonnances d'exception, donc c'est compliqué. Après, sur le plan médical, ce qui s'adapte à moi, c'est qu'avec la MDPH, j'ai le droit à une reconnaissance de travailleur handicapé. J'ai une ALD, donc j'ai une prise en charge à 100% des suivis en lien avec ma pathologie. Et d'ailleurs, ça faut absolument qu'on nous la laisse parce qu'elle était un peu remise en question pour certains soins. Parce que du coup, ça permet aussi d'avoir un rendez-vous gratuit chez un spécialiste par an. Donc tout ce qui est en lien avec la gastro-entérologie, c'est remboursé à 100%. Mais par exemple, je pouvais avoir un rendez-vous gynéco, dermato, gratuit une fois par an. Pris en charge en 100% par la sécurité sociale, en tout cas. Et c'était un peu ça qui était remis en question dans la politique. En tout cas, le quotidien, il est lourd. Il est très très lourd.
En 2008, des chercheurs français de l'INRA ont découvert que la maladie de Crohn pourrait être en lien avec la faible quantité de bactéries intestinales. Dans la première phase de cette étude, Philippe Langella, Joël Doré, Philippe Telkil et Harry Sokol et leurs collègues ont montré que le microbiote des patients atteints de Crohn comportait un déficit marqué du groupe bactérien Clostridium leptum. En poussant leur analyse plus loin, les auteurs ont découvert que la présence en très faible quantité d'un membre majeur de ce groupe, la bactérie Faecalibacterium, était responsable d'une large part de ce déficit. Les chercheurs sont de plus en plus d'accord sur un point. La maladie de Crohn est liée à un déséquilibre du microbiote intestinal. Elle n'est pas causée par, mais elle est clairement influencée par. Et donc, pour Crohn, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en compte, environnementaux et génétiques souvent. Aujourd'hui, pour la maladie de Crohn, les recherches continuent. Les pistes sont multiples, mais c'est encore très compliqué. L'angle microbiote est étudié dans les cas de traitement via transplantation fécale.
Et qu'est-ce que vous conseillerez à un patient pour entretenir la qualité ou la santé de son microbiote au quotidien ?
Alors, la première chose, c'est, comme toujours, d'abord ne pas nuire. La prévention primaire, je dirais, c'est d'essayer, dès le plus jeune âge et aux étapes de la vie, d'encourager à avoir une alimentation régulière, variée, diversifiée, plutôt de type méditerranéen, donc beaucoup de fruits et de légumes, pas trop de gras, pas trop de matières grasses animales, favoriser un peu les matières grasses végétales, un peu de poisson, sans trop de mercure de préférence. Et puis, diversifier au maximum, alléger, pas trop de gras, pas trop de sucre. Enfin voilà, donc premier conseil, c'est sur l'alimentation. Deuxième conseil, c'est éviter les stress inutiles pour le microbiote. D'accord. Le premier stress inutile qu'il faut limiter au strict nécessaire, c'est l'usage des antibiotiques. Donc, on sait maintenant que le fait de donner beaucoup d'antibiotiques à des jeunes enfants parce qu'ils font des bronchites, parce que ceci, cela... Alors, il y a de temps en temps où on n'a pas le choix. Heureusement, ça sauve des vies. Mais peut-être qu'on a eu une époque donnée trop facilement des antibiotiques au lieu d'attendre que ça passe tranquillement. Eh bien, l'excès d'antibiotiques dans les premières années de vie augmente le risque d'asthme, augmente le risque d'obésité, probablement via le dérèglement du microbiote et de l'immunité. Donc, limiter l'usage des antibiotiques au strict nécessaire, surtout avant des traitements anticancéreux. Manifestement, on s'aperçoit que les traitements antibiotiques, 2-3 mois, par exemple, avant une greffe de moelle, eh bien, ça donne la greffe de moelle va moins bien fonctionner. Et il y a d'autres exemples comme ça. Et puis, donc, si malheureusement, il a fallu traiter, et heureusement, encore une fois, les antibiotiques, ça sauve des vies, quand c'est bien utilisé, eh bien, on va essayer de restaurer rapidement le microbiote. Et puis, il faut essayer évidemment d'éviter des traitements, je dirais, maltraitants de notre intestin. Il y a de temps en temps des modes qui circulent avec des potions bizarres, des jus de je ne sais quoi, des infusions de jus de citron, enfin, des choses épouvantables pour perdre du poids, de se faire des lavements évacuateurs sans raison, des lavages coliques, que sais-je encore. Enfin, il y a des jeûnes inappropriés. Enfin, tout ça, ça n'a aucun bénéfice démontré et ça expose à plus d'inconvénients que de bénéfices. Donc, il faut éviter de maltraiter son microbiote.
J'aimerais aborder, ou plutôt revenir sur un sujet qui est le fait que notre microbiote est-il notre deuxième cerveau ? Donc, comme vous le savez ou pas, notre cerveau et notre ventre se parlent en permanence. Car oui, parfois vous dites « j'ai un nœud à l'estomac ». Et ça, c'est grâce à ce que l'on appelle l'axe microbiote intestin-cerveau. Vos bactéries intestinales, le nerf vague, vos hormones et votre système immunitaire forment une sorte de ligne directe avec votre pensée, votre stress et votre humeur. Pensez-y, lorsque vous êtes stressé, votre cœur s'accélère, vous avez envie d'aller aux toilettes et vous perdez l'appétit. Inversement, une sensation de bien-être après un bon repas ou une marche en nature peut venir de vos bactéries. Car nos micro-habitants fabriquent ou modifient les molécules comme la sérotonine, le gamma, la dopamine. Ce sont donc des acteurs majeurs de l'humeur, comme on en a déjà parlé. Et quand l'univers intérieur vacille, ça peut être répercuté jusqu'à notre cerveau. Résultat, nous sommes plus vulnérables au stress, à l'anxiété et aux troubles de l'humeur. Aujourd'hui, comme le précise Guillaume Fond dans cette émission de France Télévisions avec Annick, les psychiatres ne doivent plus prescrire d'antidépresseurs sans faire un point complet sur les taux de vitamines, zinc et probiotiques.
Après recherche, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé.
Tout ça, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est un virage dans la pensée médicale. Notre ventre n'est plus un simple tube digestif, mais un acteur à part entière dans notre santé mentale. Ça peut paraître original, mais dans un monde où il n'y a jamais eu autant de dépressions et de maladies chroniques, interroger son microbiote, c'est devenu presque un non négociable. En Normandie, plusieurs personnes osent parler et étudier le microbiote intestinal. L'UMR INSERM 1073, dirigé par le professeur De Schlott, est très investi dans la recherche sur la nutrition, inflammation et dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau. Basé à l'UFR Santé de l'Université et le CHU de Rouen, l'UMR s'implique dans les maladies digestives et de la nutrition. Pour clôturer cet épisode en beauté, j'ai demandé au professeur De Schlott la question fatidique. Quelle est la place de la recherche sur le microbiote intestinal en Normandie ?
Il y a quelques années, maintenant c'est une affaire qui est à peu près terminée, mais on a développé un probiotique qui renforce l'effet des hormones de satiété pour traiter justement le surpoids, pour aider le contrôle du poids. Et ce probiotique, donc, qui a été validé au laboratoire, puis qui a fait l'objet d'une étude clinique, est maintenant commercialisé depuis plusieurs années. Il fait sa vie au niveau national et international. Plus récemment, un chercheur de l'unité a découvert une nouvelle bactérie. C'est David Ribet, qui est chercheur INSERM, qui a découvert une nouvelle bactérie qui n'avait jamais été décrite jusqu'à présent, qui est présente dans l'intestin et qui semble avoir des effets anti-inflammatoires intéressants, donc pour lesquels il y a des développements, bien sûr, en cours pour rechercher des applications. Et puis, Tout récemment, nous avons terminé une grosse série d'études chez des patients souffrant de différents troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie. Nous avons étudié leur microbiote à différents moments et mis en évidence un certain nombre de profils différents qui évoluent au fil du temps. Et ça, ça va nous donner un peu des pistes pour aller creuser un petit peu plus le rôle peut-être de certaines espèces dans la restriction, ou au contraire dans l'hyperphagie. Et nous avons développé des modèles pour essayer d'approfondir tous ces éléments. Et le dernier point de curiosité scientifique vraiment très important, c'est qu'on a montré par toute une série d'études que le microbiote n'est pas le même chez les mâles et chez les femelles. Moins chez la souris dans un premier temps, et probablement chez l'homme aussi. Et que donc ça peut expliquer que la réponse, la vulnérabilité à certaines maladies n'est pas la même en fonction du sexe, parce qu'il y a aussi des différences, non seulement sur les hormones sexuelles, bien sûr, mais il y a aussi des différences dans le microbiote et dans la façon dont il réagit au même type de stress.
D'accord.
Donc, vous voyez,
à l'inflammation aussi.
Voilà, probablement, et on sait que certaines maladies touchent plus fréquemment les femmes que les hommes, et inversement. C'est multifactoriel, bien sûr, mais dans ces facteurs de vulnérabilité, il y a probablement des choses liées au microbiote.
Et je remercie Mélinda et le professeur Pierre Deschlotte pour ce témoignage. Et pour finir, c'est pour ça que ce podcast est là, pour apprendre à chacun à s'observer, pour mieux se comprendre, pour mieux agir et pour mieux prendre soin de soi. Car nos corps sont nos machines pour profiter au mieux de nos vies, donc bien les nourrir est le meilleur moyen de les garder en bon état. Et des gens bien dans leur corps et dans leur esprit, ça donne une société en meilleure forme. Alors ici, chez Radio Girafe, on reprend le pouvoir et la souveraineté sur ceux qu'on croit ne pas pouvoir contrôler, et nos petites bactéries en font partie. Avant de vous quitter et de vous souhaiter un excellent week-end, j'ai décidé d'ouvrir notre regard. Partons à la découverte de la médecine chinoise. L'intestin n'y est pas vu comme un simple tube digestif, mais comme un véritable centre de tri, d'assimilation et de clarté intérieure. Pour la médecine chinoise, l'intestin grêle, appelé Xiaochang, sépare le pur de l'impur. Sur le plan physique, il trie ce qui doit nourrir le corps et ce qui doit être éliminé. Sur le plan émotionnel, il aide à clarifier les choix, discerner et trier ce qui est bon pour soi. Le gros intestin, lui, il gouverne l'élimination. Il est appelé Dachang. Sur le plan physique, il expulse les déchets. Sur le plan émotionnel, il aide à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Souvent, les problèmes de transit sont des difficultés à lâcher. Pour le lien avec les émotions, les intestins sont liés à l'élément métal, avec les poumons, et donc au thème du lâcher-prise, de la tristesse, du sens et de l'organisation intérieure. Un intestin équilibré, c'est de la clarté, du calme et une capacité à faire circuler. Un intestin en désordre, c'est de la stagnation, de la rumination, de la tristesse bloquée ou de la rigidité. Et voilà, c'était Lisa pour la Radio Girafe dans la chronique Être Bien. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Et je vous dis à très vite. En attendant, téléchargez l'appli, abonnez-vous, rejoignez-nous et surtout, écoutez-nous.